8h38, c'est une visite aujourd'hui qui est assez attendue dans le contexte, entre autres, de ce qui s'est passé en Syrie, mais aussi ce qui s'en vient avec l'Iran. Les États-Unis, Donald Trump avait annoncé qu'il voulait se retirer de l'accord avec l'Iran. Ben, justement, Emmanuel Macron va passer la journée à Washington, rencontrer Donald Trump. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend de ça? C'est une visite d'État. On fait la différence entre une visite d'État et une visite officielle. Pour nous en parler, on accueille celui qui est un grand spécialiste de la politique, de la culture et des religions, le professeur Norman Cornett. Bonjour, Norman Cornett.
Bonjour, M. Gailloux. Et il y a beaucoup de liens entre les États-Unis et la France qu'il faut souligner. D'abord, l'origine, le plan urbain de la capitale fédérale américaine, Washington, D.C., eh bien, c'était nul autre qu'un ingénieur militaire français, Pierre-Charles L'Enfant, d'où le plan Enfant, qui est à l'origine même de Washington, D.C. Et puis, évidemment, l'invitation d'Emmanuel Macron, le plus jeune président de la République française dans l'histoire de la France, c'est-à-dire quand on l'a élu, il n'avait que 39 ans. Et c'est un président français qui vient en position forte sur le plan international et spécifiquement l'Union européenne. D'abord Angela Merkel, la chancelière, qui était la grande dame de l'Union européenne. Elle est en position de faiblesse. Elle peine à avoir une coalition et elle est fort contestée. Et puis ne parlons même pas de Theresa May au Royaume-Uni, qui a eu le malheur de faire des élections anticipées, qu'elle a perdu, mais lamentablement, elle est en position minoritaire avec des protestants de l'Irlande du Nord, des purs et durs, donc sa position est très fragile. Et on voit qu'Emmanuel Macron, le jeune lion d'Europe, profite de ce vacuum de pouvoir, de leadership dans l'Union européenne, sur la scène internationale, pour s'imposer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas contesté en France, mais toujours est-il qu'il joue le rôle d'intermédiaire, ce qui n'est pas rien dans le cas de Donald Trump, entre les Européens et les Américains pour les frappes en Syrie. Donc on voit qu'il y a une synergie entre Donald Trump et Emmanuel Macron. On dirait qu'il y a un genre d'estime l'un pour l'autre et c'est fort symbolique que Donald Trump reçoit. Vous avez fait la distinction visite officielle, visite d'État, dîner d'État, que le premier chef d'un gouvernement étranger, eh bien c'est nul autre que le président de la République, qui sera là pour 3 jours. Donc on voit qu'il y a chez Macron, et c'est ce qui me fascine en tant qu'historien, il est en quelque sorte dans la lignée de Charles de Gaulle. De Gaulle se voyait comme indépendant, autonome, et de l'OTAN et des États-Unis. Il voulait se positionner pour être un intermédiaire entre ce qu'on appelait autrefois le tiers monde et l'Europe de l'Ouest, le monde développé suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai l'impression, Monsieur Gailloux, qu'on est en train de restaurer cette tradition diplomatique de Charles de Gaulle sur la scène internationale avec ce nouveau président, oui, ce jeune président de la République, Emmanuel Macron.
C'est ce qui est intéressant.
Vis-à-vis les États-Unis, il est à la fois critique, mais il sert d'intermédiaire.
Oui, parce que c'est pas fait. Il y a beaucoup de points de divergence. Mais ce qui est un point très important, j'écoutais des commentateurs, des experts souligner ce point, c'est le premier président français qui est parfaitement bilingue et que ça peut faire une grande différence. Et on soulignait que Jacques Chirac s'était mortellement ennuyé lors d'un dîner d'État parce que tout autour de lui, ça parlait anglais, il ne comprenait rien. Mais là, Emmanuel Macron est très à l'aise, connaît aussi la culture américaine, il a étudié à Boston. Dans quelle mesure ces éléments-là, ça joue un facteur important?
certes, ça va favoriser une entente. Mais il faut se rappeler qu'il y avait ce rapport entre Nicolas Sarkozy et George oui. W. Bush. Oui. Donc, ce n'est pas tout à fait nouveau. Vous savez, l'alliance franco-américaine, c'est pas d'aujourd'hui que ça date. C'est d'ailleurs lors de la. Il faut se rappeler que dans la conscience collective américaine, les Français, c'était les premiers qui ont porté secours, qui ont porté de l'aide aux jeunes Américains révolutionnaires contre l'Empire britannique lors de la Révolution américaine. Et ça, par le biais du marquis de Lafayette. Or, ça, c'est très important dans l'histoire, et on va sûrement le souligner. Et quand je parle de ces liens, vous savez, Pierre-Charles, l'enfant, son tombeau est dans Arlington National Cemetery. Alors, c'est donc dire qu'il y a une tradition, il y a des racines, et qu'on va on va confirmer tout cela. Et on voit qu'il, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'était ça la visite d'État que Donald Trump a fait l'été dernier, à l'invitation d'Emmanuel Macron, c'était le jour de la Bastille, c'était l'armistice, ça faisait 100 ans qu'on avait mis fin à la Première Guerre mondiale, donc il y avait la brigade Lafayette qu'on voulait souligner, les Américains, pour la première fois, ils venaient en masse, outre-mer, s'engager dans une guerre étrangère. Or, tout ça, ça fait partie des liens en franco-américains, de cette alliance franco-américaine qu'Emmanuel Macron va certainement souligner, mais aller de l'avant parce que c'est un jeune. Et c'est ça qui le démarque aussi. C'est un jeune fort cultivé, d'une éducation hors preuve, hors pair même. Donc, tout cela, ça fait que il est drôlement bien placé pour devenir un chef, un interlocuteur entre Donald Trump, les Américains et l'Europe, l'Union européenne, pour ne pas dire la scène internationale, parce que rappelons qui faisait en quelque sorte la navette téléphonique entre Donald Trump et Poutine, c'était nul autre qu'Emmanuel Macron qui était au téléphone avec Poutine quelques heures avant les frappes. Et c'est pour cela que je souligne ce positionnement dans la tradition de Charles de Gaulle, on est autonome, on est indépendant et on peut jouer un rôle sur la scène internationale, sur la scène diplomatique mondiale que nul autre peut rivaliser. Mais et c'est là où il veut se mettre Emmanuel Macron.
Ouais, il y a aussi un élément nouveau très important, c'est que depuis une quinzaine d'années, suite surtout à l'aventure des Américains en Irak, disons qu'on avait boudé les relations avec la France, on s'était presque retourné contre la France, et là tout à coup dans une opération d'intervention en Syrie, les trois, en fait la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis ont travaillé de concert. Ça aussi, c'est un élément important, ça, dans le retour de la France dans le giron de Washington.
Ah oui, tout à fait. Et c'était Emmanuel Macron qui était là en chef pour cette triple alliance, en quelque sorte. Mais c'est maintenant en tant qu'Américain que je parle à l'auditoire de Radio-VM. Il faut, quand on est jeune Américain et qu'on apprend l'histoire de la Révolution américaine, ensuite de la Première Guerre mondiale, les Doughboys, comme on les appelait, les soldats américains qui allaient outre-mer pour la première fois, il faut se rappeler que le français, la France, fait partie intégrale de l'histoire des États-Unis. Et d'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion, ceux et celles qui sont à l'écoute de Radio-VM, je vous invite tous d'aller, quand vous êtes à San Francisco, de visiter le musée de la Légion d'honneur. Rien de moins. Pour souligner les liens, suite à l'armistice et l'alliance franco-américaine, on a construit un musée qui est sublime, qui est un joyau sous la côte américaine, et tout ça pour renforcer que ça fait plus de 250 ans que la France et les États-Unis marchent main dans la main.
Et même l'architecture, l'architecture de la Maison Blanche est inspirée.
Dans le style Beaux-Arts, oui, c'est magnifique. Et ça surplombe l'océan Pacifique à côté du pont Golden Gate. Et donc, on a donné une place de choix à cette alliance franco-américaine, et ça, même sur la côte Pacifique.
Ouais. En terminant, le professeur Cornette, il y a quand même des divergences importantes, notamment sur la suite en Syrie. Bon, Macron voudrait que les Américains demeurent, maintiennent des soldats en Syrie. Trump, il n'y en est pas question. Et aussi l'Iran. Ça, l'Iran, c'est majeur, là.
Oui. Non, vous avez entièrement raison de souligner cela. Et ne parlons même pas de l'entente sur le climat, le traité de Paris. Mais Macron a déjà dit, avant de s'envoler vers Washington DC, qu'il n'allait pas pousser trop fort, ni sur l'entente, le traité de Paris sur le climat, ni sur la Syrie, quoi qu'il y ait. Vous avez raison, il n'est pas du tout d'accord, mais même les généraux, les militaires de Trump ne sont pas d'accord. Donc, ce qui est un petit peu le génie de Macron, c'est qu'il ne s'affaiblit pas devant Trump. Trump, lui, fait pas peur. Donc, il sait comment trouver ce qu'on appelle en France la bonne mesure avec Donald Trump. Et l'Iran, c'est vrai que Macron appuie l'entente sur l'Iran. Est-ce qu'il va trouver un moyen diplomatique, en douceur, de convaincre Donald Trump?
C'est une très bonne question. Ben, en tout cas, ça va être intéressant, cette rencontre entre ces deux leaders. On aura l'occasion d'en reparler probablement la semaine prochaine. Il y aura peut-être du nouveau, finalement. Peut-être que Trump va avoir changé une couple de ses positions. Professeur Norman Cornette, merci beaucoup. On s'en parle la semaine prochaine.
Oui, avec plaisir. Et vous avez raison. Avec Trump, il y a toujours du nouveau.
Oh, il vient d'en arriver, tiens, du nouveau. Merci beaucoup.
Au revoir.
Bye-bye. 8h50, ben, on revient dans quelques instants. Voici Joe Dassin. Oh, l'Amérique, 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 l'Amérique.